Philippe Vandel est de retour avec sa série des Pourquoi pour répondre à toutes vos questions sur les Jeux Olympiques.
Il y en a tellement. Pourquoi un joueur de foot ne peut pas retirer son maillot pour célébrer un but? Pourquoi l'équitation est-elle la seule épreuve mixte des Jeux Olympiques? Et d'ailleurs, pourquoi certains sports sont-ils olympiques et pas d'autres? Des questions évidentes, mais des réponses étonnantes. Plongez avec moi dans l'univers fascinant des Jeux Olympiques et du sport.
Les Pourquoi des Jeux Olympiques, un livre surprenant de Philippe Vandel, aux éditions Kero.
RMC.
Oh, c'est gonflé. Oh,
Basket Time.
On fout ce qui arrive en deuxième mi-temps, même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après on perd, c'est pas grave, c'est la vie.
C'est fini, champion d'Europe de basket, messieurs dames. Jacques Monclar est aux anges, on est tous aux anges.
Arnaud Valadon.
Salut à tous, bienvenue dans Basket Time, votre rendez-vous hebdomadaire en podcast sur RMC tous les mardis. Aujourd'hui, exceptionnellement pas de NBA, mais nous allons parler d'une autre finale tout aussi excitante, celle du championnat de France entre Boulogne-Levallois et Victor Wembanyama face à l'AS Monaco Basket et ses stars. Victor Wembanyama, 3 victoires d'un titre de champion de France avant de s'envoler pour la NBA. Un invité avec nous, nous avons le plaisir de recevoir le directeur des opérations sportives des Mets 92, Alain Weiss. Bonjour Alain.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors le casting aujourd'hui, un pivot que vous avez sélectionné Alain à près de 18 reprises en équipe de France, Frédéric Weiss.
Bonjour.
Tu l'avais le 18 ou pas, ou Alain?
Oh ben,
j'ai compté, hein.
Les centimètres, je sais pas, mais enfin, en tous les cas, il était grand, il était important, et puis on a eu une médaille ensemble.
Hein. On n'oublie pas, assistant effectivement à Sydney en 2000 pour cette médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Un journaliste, Alain, que vous avez croisé à l'époque de Pâté Sport, notamment quand vous étiez au Mans ou en équipe de France, Nicolas Bayou.
Salut Arnaud.
Ne rajeunis pas. Hein.
Ouais, ça fait longtemps.
Mais c'est vrai.
C'est une belle époque.
On a même commenté ensemble.
C'est vrai?
Ouais.
Mais quel match?
Championnat de France?
Ouais, du temps de Naismith.
L'inventeur, évidemment, du basket. Enfin, un arbitre qui n'aurait jamais osé vous mettre une technique, notre journaliste qui est le seul à avoir lu entièrement les règles du basket, Geoffrey Charpille.
Absolument, bonjour à toutes et à tous. Et pourtant, il m'est arrivé de mettre une faute technique au Palais des Sports Marcel Cerdan sur un match de Minime France. Voilà, je le regrette parce qu'elle n'était pas méritée, mais j'en ai mis une.
Écoute, ça arrive, mais à coup de pas.
Il a lu toutes les règles, mais il les a jamais comprises.
Ah oui, non.
Allez, c'est parti, Basket Time, spécial finale du championnat de France de basket.
Et pour la 5e fois de son histoire, l'AS Monaco Basket va rejoindre les finales du championnat de France. Le chronomètre qui va s'écouler, le score final sera 71-85. Victoire monégasque ils auront remporté cette manche 3-0. C'est terminé.
Et puis le basket, ça y est, c'est officiel. Victor Wembanyama va disputer la finale de Betclic Elite, Jérémy Donzé.
Ah, coup de tonnerre dans ce championnat de France. Le triple champion de France en titre prend la porte dès les demi-finales, dès le match 4, devant son public de l'Astrobal. L'Asvel battu de 2 points, 71-69 pour les hommes de Vincent Collet. Ce dernier shoot raté au buzzer d'Antoine Diot qui envoie donc Victor Wembanyama et ses coéquipiers en finale. Ce sera face à Monaco qui s'est qualifié 3-0 face à Bourg-en-Bresse.
Voilà notre finale logique finalement, regardant le classement de la saison régulière, le premier Monaco contre le deuxième. Comment voyez-vous cette finale, messieurs? Monaco et son effectif impressionnant qui a participé au Final Four de EuroLeague, 3e place, et les Mets, cette meute de jeunes loups affamés emmenés évidemment par Victor Wembanyama et Bilal Koulibaly, les futurs draftés, Fred.
Difficile vraiment à pronostiquer cette finale. Moi, je compare un petit peu avec la finale Nuggets-Heat. Et j'ai envie de dire que les Mets sont un peu le hit. On ne sait pas trop ce qu'ils sont capables de faire, mais à chaque fois, ils montent leur niveau de jeu. Leur plafond de verre s'arrête jamais. En fait, ils le cassent à chaque fois. Ils vont toujours un peu plus haut. Et je suis très impressionné par cette jeunesse qui apprend à une vitesse grand V. Et c'est très, très fort. Parce que après le match 3, tout le monde aurait pu se dire, ça y est, ils sont un peu cassés. Ils en ont pris quasiment 30. C'est fini. L'Asvel a pris l'avantage dans cette série. Et en plus, ils sont à la maison. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça du tout. Et ils ont été là, et malgré un début de match un peu complexe, bah ils ont été capables de répondre, et je suis très impressionné.
Ils ont été solides, effectivement, Nicolas, ces Mets, avec beaucoup de caractère. Hein.
Après, ils ont fait une belle demi-finale face à une équipe quand même de l'Asvel qui était un peu perdue depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Mauvaise saison en Euroleague, des blessures, des mauvais recrutements.
Pas de Nando Docolo.
Nando Docolo blessé, la chimie qui n'a jamais fonctionné. Au contraire de cette équipe des Mets, moi je vois quand même Monaco quand même favori assez largement parce que c'est l'année, j'ai l'impression, de Monaco. Ils ont l'équipe, ils ont le roster, la profondeur que n'a pas peut-être les Mets sur une série en 5 matchs. J'ai du mal à voir les Mets s'imposer deux fois à Monaco et finir le travail à Paris. Est-ce que le Valois finalement n'a pas déjà réussi sa saison? C'est une super saison et Monaco, pour le moment, la saison n'est pas réussie, même s'il y a évidemment ce parcours fantastique en Euroleague, troisième équipe d'Europe, mais il court après le titre. Il court après le titre.
Alain, les jeunes loups affamés, puisque vous avez des jeunes avec quelques bergers expérimentés, c'est comme ça qu'on pourrait décrire les Mets, surtout sur ces playoffs. Hein, on voit Barry Brand, on remit son dunk gamelle manqué, mais il y a eu des paniers très clutch, paniers d'expérience. Voilà, c'est cet alliage, cette alchimie dans cette équipe.
Oui, avec Tashaun Thomas aussi, qui est... et puis nos trois piliers français, Konaté, Oyufat et Mangiassi, qui sont aussi des joueurs qui tempèrent beaucoup le vestiaire. C'est important. D'abord, ils sont sur le terrain et puis ensuite, ils tempèrent beaucoup le vestiaire. Ça, c'est important. Non, moi, ce que je trouve formidable, c'est effectivement cette résurrection entre le match 3 et le match 4. Il y a eu du travail de fait de la part de Vincent Collet, de la part du staff, de la part des staffs, parce que, bon, en play-off, qu'on perde de 30 points ou qu'on perde d'un point, c'est la même chose. On se retrouvait comme au tennis, 2-7 à 1, 4e set, balle neuve, quoi. Hein. C'était ça un peu l'image. Et en fait, il n'a pas fallu énormément les convaincre parce que ces jeunes sont extraordinaires. Ils ont 18 ans, hein, franchement. Ils ont 18 ans, 19 ans, 20 ans pour Hugo Besson. Et ils ont une mentalité, ils ne doutent de rien. Voilà. C'est-à-dire que nous, on était un peu apeurés avant le match 4. On s'est dit, bon, on a pris 30 quand même, hein, ou 25 au match 3. Bon, ça laisse des traces. Mais ça laisse des traces par rapport à notre mentalité, à notre âge. Eux, non. Non, ils se sont dit non, mais on va gagner le 4. Alors, c'était pas certain, mais ils étaient dans cette mentalité-là.
Et vous l'avez déjà vu dans le basket français, une telle mentalité. Je pense peut-être comme ça, vite fait, aux Cardiac Kids, à l'époque aussi, ouais. même club sur cette fougue, cette jeunesse, où là on est vraiment aussi dans une autre sphère, un autre niveau.
Ouais,
c'est une autre sphère, c'est un autre niveau, évidemment. Alors les Cardiac Kids étaient très forts, avec Sacha Giffa d'ailleurs qui en faisait partie.
Assistant de Vincent Collet.
Mais c'était quand même autre chose, c'était des très bons joueurs, mais c'était pas des joueurs avec le potentiel incroyable qu'on est en train de voir. Bilal Koulibaly, c'est monstrueux, sa progression, elle est exponentielle.
On est en top 15 au niveau de la draft.
Exponentielle, oui, non mais moi j'ai même entendu top 10, hein. Donc honnêtement, et ça serait mérité, parce que franchement ce qu'il propose c'est incroyable, mais... Non, enfin, moi, personnellement, alors je vais vraiment parler que pour moi et je ne veux pas m'avancer trop, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, des jeunes capables de répondre autant.
Moi, je rapprocherais cette équipe de l'équipe de Mike Petrus, Boris Diaw, du début des années 2000, lorsque ils étaient tout jeunes, hein, juste avant qu'ils partent en NBA, où ils avaient été très forts pendant le championnat et ils étaient différents des basketteurs français habituels. Ils étaient tellement athlétiques. Et encore une fois, cette jeunesse ne doutait de rien. C'est plus à eux que je penserais qu'aux Cardiac Kids, parce que les Cardiac Kids, ça a été quelques matchs en championnat. Mais là, au niveau des play-offs, d'une finale, enfin d'une demi-finale, je pense que...
La maturité développée, c'est ça ?
La maturité et puis le talent. Le talent, c'est-à-dire que de l'équipe de Pau dont je parlais, il y en a quand même deux ou trois qui sont partis à NBA. Et là, on va en retrouver au moins deux en NBA, quoi. Donc, c'est-à-dire que c'est du haut niveau et c'est une mentalité. Ce sont deux mentalités qui se rapprochent l'une de l'autre.
N'hésitez pas à aller voir les highlights de Boris Diaw et Poc Pau où il y avait du jus pour Babak. Hein,
oui, c'était un Babak aérien qui pouvait partir pratiquement la ligne des
lancers francs.
Maintenant, je ne sais pas s'il peut faire un deux pas à 3 mètres.
Geoffrey, finalement, c'est une surprise sans une surprise de voir les Mets là quand on voit leur parcours en saison régulière. Il y a même d'ailleurs eu une victoire contre la Roca Team, je crois, en saison régulière.
Totalement. Pour moi, c'est pas une surprise de voir les Mets en finale du championnat de France. Et avant le match 4, des demi-finales face à l'ASVEL, je m'étais dit peu importe qui va passer dans cette finale, ils seront outsiders face à Monaco. Alors je pense que les Mets sont toujours outsiders face à Monaco, mais ce qui m'a impressionné du côté des Mets, c'est l'intensité défensive que peut mettre cette équipe sur peut-être pas pendant 40 minutes, parce que voilà, ce sont des jeunes joueurs, ils sont encore inexpérimentés sur certains points, mais quand ils se mettent à défendre très très fort, à couper les lignes de passe, à se jeter sur tous les ballons, je pense notamment au capitaine Lau Konaté ou encore à Steve Oyufat, je me suis dit waouh, là c'est très impressionnant ce que
Lau Konaté, je te rejoins, ouais. Sur Dybost.
Exactement.
Dybost, voilà. Il savait plus où l'habiter.
Exactement. En fait, il voulait
il voulait prendre le match à son compte, voilà. C'est une évidence. Il n'y a eu aucune option.
Bon, après, c'est Antonio qui l'a pris.
Par contre, je pense que les Mets n'ont pas battu Monaco.
Non, ou de peu.
Je crois pas. Trois victoires
cette année.
Trois victoires,
oui. cette année. On a perdu tous les matchs. Ouais. On en a perdu un de très peu à domicile d'un point.
Oui, c'est ça. Voilà.
Le
ça
jour que... où Okobo avait mis 31 points, je crois, et où on avait vu Mike James jouer très collectif et très meneur de jeu classique. Mais on avait jusqu'à 14 points d'avance au quatrième quart-temps, mais ils nous avaient coiffé d'un point à la fin.
Mais juste... votre meilleur match, c'est pas quand vous perdez là-bas et que Tremont Waters se fait virer finalement.
Et oui, le meneur qui est parti en cours de saison.
Parce que
depuis
qu'il n'est plus là, ça joue beaucoup mieux au basket en fait. Non, pas plus c'est... collectivement en tous les cas.
Moi, je veux pas charger Tremont Waters. Non, mais c'est évident que il avait bloqué le vestiaire, et bien qu'il soit très fort. Il avait bloqué le vestiaire parce qu'il n'acceptait pas du tout la lumière qu'il y avait sur Victor Wembanyama. Et c'est le seul qui n'a pas compris que la lumière, elle était sur Victor, parce que c'est comme ça, il n'y est pour rien, et qu'elle pouvait aussi éclairer un peu tous les autres.
C'est clair.
À l'image évidemment de Bilal Koulibaly, dont on parle énormément. Sur la finale, Fred, quelles sont pour toi les clés? On vient de parler de la défense des Mets. Là, il va falloir être en mission sur plusieurs joueurs. Et du côté de Monaco, comment aussi peut-être verrouiller Victor Wembanyama? Il y a des belles tours de contrôle aussi du côté de l'effectif de la Roca.
Oui, il y a tout ce qu'il faut dans les deux équipes. Après, je suis très impressionné, et je rejoins Geoffrey, par la défense que peut proposer les Mets. On sait que c'est la meilleure attaque des playoffs Monaco, donc il va falloir jouer très sérieusement sur eux, être défensivement fort, parce qu'ils ont quand même un axe à 3 avec James, Lloyd et Okobo qui sont très très forts, mais il n'y a pas que ça. Motiejunas qui est très très bon aussi en ce moment. Donc voilà, il va falloir défensivement faire le taf qu'ils ont fait, mettre beaucoup beaucoup de pression, et offensivement jouer comme ils le font, c'est-à-dire bien circuler le ballon, attaquer le cercle et mettre rapidement dans la pénalité l'équipe adverse. C'est ce qu'ils avaient fait contre l'ASVEL, et à chaque fois qu'ils ont réussi à le faire, ils se sont imposés. Du côté de Monaco, ce sera imposer leur défense physique. On sait qu'ils ont une défense capable de les amener au final fort de l'Euroleague, donc ils savent comment faire. Ils vont mettre un Brown the third contre Victor et qui va l'embêter au maximum. C'est à Victor d'essayer de se dépêtrer de ça. Mais ce sera pas évident. Clairement, il sera ciblé et ce sera dur.
On a vu l'ASVEL tenter beaucoup de petits sur Victor Wembanyama durant cette demi-finale.
Ça l'a gêné d'ailleurs un petit peu.
Hein, sur du KUD.
Ouais, KUD effectivement l'a gêné. Moi je pense, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, la profondeur sera quand même une des clés de ces finales sur 5 matchs, s'il y en a 5. Monaco, c'est 11-12 joueurs qui ont joué une saison d'Euroleague, qui ont du talent. Il va falloir que les joueurs du banc des Mets apportent beaucoup plus. Je pense à Hugo Besson, qui, c'est vrai, il revient de blessure.
Lui, il n'y est pas.
Il n'est pas encore.
Alors, effectivement, il revient de blessure, mais il n'y est pas.
Il a eu un bon passage, je crois, dans le match 2, juste avant la mi-temps, avec notamment un 3 points.
Il est capable d'apporter beaucoup plus. Steve Oyufat, Lau Konaté, qui ne sont pas des scoreurs réguliers, doivent vraiment faire une grosse, grosse finale pour épauler les joueurs cartes. Barry Brown aussi doit faire une grosse finale. C'est tous ces joueurs à côté de Victor, de Bilal.
Steve Oyufat, très bon, très très bon troisième match contre la Zone. Ouais, quatrième match, pardon.
Voilà, il faudra le faire. Pour battre Monaco, il en faut plus que sur un match.
Et peut-être, Alain, il faudrait un Devante Jones. Est-ce que vous êtes rassurant ou pessimiste, le meneur des Mets qui était absent sur le match 3, match 4?
Bon, on avait tablé sur une rentrée de Devante mercredi soir au match 5. Il s'est entraîné hier normalement. Petite douleur, mais il n'y a aucun problème. Il sera aligné. Par rapport aux forces en présence, il faut remarquer que Monaco a 8 étrangers, ne pourra en aligner que 6. Donc il y a 2 joueurs qui vont devoir sortir. Alors peut-être, je ne sais pas, Shima Moneke ou Blossom Game. Donc ça, c'est déjà un élément. Ensuite, Bon, leur niveau de jeu n'est plus à démontrer. Quand on est troisième de l'Euroleague, ça veut dire qu'on est très fort. Maintenant, je n'ai pas été très impressionné contre Strasbourg. Voilà, j'ai trouvé qu'ils avaient, ils avaient souffert, et même s'ils sont plus forts à la fin, ça se voit, c'est eux qui gagnent. Je me dis, tiens, on peut faire ça aussi, et peut-être un peu mieux. Alors, je ne dis pas qu'on est favori, si je devais parier, logiquement, je parierais Monaco.
Tu parierais contre toi,
Alain. Non, mais je pense qu'on peut les embêter. Alors, pour te répondre, je pense qu'il ne faut pas gagner deux fois à Monaco, il suffit de gagner une fois.
Pour récupérer l'avantage du terrain.
Voilà. Et puis espérer gagner deux fois à Paris. Mais bon, c'est eux qui ont la main, c'est eux qui ont l'avantage du terrain. C'est eux qui sont favoris, c'est indéniable.
Ouais, et Arnaud, tu parlais tout à l'heure des points clés de cette série. Pour moi, il va y avoir un point clé. Tout à l'heure, j'ai encensé la défense des Mets face à l'Asvel. Mais pour moi, je vais émettre un petit bémol offensivement. Alors certes, bien évidemment, le meneur titulaire n'était pas là. Mais c'est sur la capacité des joueurs extérieurs, meneurs et arrière, à ne pas perdre la balle face à l'agressivité des Monégas. Parce que on l'a dit, c'est des jeunes joueurs. Donc forcément, ils sont insouciants. Ils ont envie de tenter des choses. Mais j'ai vu face à l'Asvel des pertes de balles très bêtes. Des difficultés à monter la balle, et je pense que face à cette équipe ça peut être très compliqué. Si on vient à perdre 4-5 ballons par quart-temps, je pense que derrière ça va être compliqué pour vous de revenir. Après, j'ai entièrement confiance, et voilà, Hugo Besson doit sortir de sa boîte, normalement Devante Jones va revenir, mais je me dis voilà, il ne faut pas répéter les mêmes erreurs que face à l'Asvel, parce que sinon ça pourrait vous être préjudiciable. Voilà, ce serait juste le petit bémol, les montées de balles.
Et Fred et Victor, c'est quand même il est en finale, on sait que dans ses discours, il a envie de déjà marquer l'histoire du basket. Il est à 3 matchs de faire déjà quelque chose de grand. Il y a de la pression sur lui, peut-être encore plus, ou ça l'effleure comme d'habitude.
Honnêtement, je pense que ça l'effleure. Alors, je pense qu'il a un peu de pression, parce qu'il a envie de laisser une très bonne image en France, c'est une évidence. Sauf qu'on a vu ce que ça donnait quand il avait de la pression. Rappelez-vous quand même, il est allé à Las Vegas pour laver tout le monde. Donc ça, c'était quand même très très fort en soi.
Mais il n'y avait pas dedans. Enfin, il y avait un enjeu monstrueux pour lui.
En plus, sur le territoire des Ricains, je trouve qu'il y avait un enjeu monstrueux. En fait, en général, il assume très bien cette pression et il fait le taf. Après, forcément, la pression est un petit peu plus grande. Parce qu'on le dit, c'est un joueur qui a pour vocation d'être quelque chose d'unique. Donc pour être unique, il faudrait peut-être qu'il gagne le championnat de France en plus.
Alain, déjà Vegas, c'était quelque chose de très fort au niveau de la pression, de l'attente. Donc là, c'est équivalent ou
non,
c'est final?
Je suis Fred complètement. Il y avait une énorme pression à Las Vegas parce qu'il venait aux États-Unis défier Scoot Henderson et dire voilà, c'est moi, je suis là. Et il a fait des matchs complètement inouïs. Et à partir de là, tout est... C'est le Big Bang. Hein. C'est le Big Bang de Victor Wembanyama, c'est Las Vegas. Ensuite, bon, il a confirmé pratiquement toute l'année. Bon, la pression, je crois qu'il faut oublier ça. Peut-être qu'elle viendra après lorsqu'il ne touchera pas les mêmes chèques qu'à Paris, quand il sera en NBA.
Vous ne lui donnez pas 10 millions de dollars à
l'année. Non, non. Non, il y a une différence d'un zéro, bon. Ou de deux zéros. Et non, mais il joue, Victor Wembanyama, il est heureux de jouer, c'est pas un travail. Je ne dis pas qu'il ne travaille pas, hein, attention, parce qu'aujourd'hui, on ne sait jamais comment on perçoit les choses. Il travaille beaucoup, mais ce n'est pas un travail, c'est un jeu. Et il est sur le terrain pour jouer et pour gagner. Il a une envie de gagner, ce garçon, c'est incroyable. Et il aurait pu cette année se contenter de bien des compliments de gens connus mondialement dans le basket et tout ça. Oh, ça, il n'a pas changé. Voilà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'a pas pris la grosse tête. Et moi, j'aurais pensé qu'un garçon de 19 ans à qui il arrive ça aurait un peu changé en termes de mentalité et puis son rapport avec les autres. Il n'a pas changé d'un iota.
Petite question sur sa santé physique aussi, il y a quelques jours du match, parce qu'il grimaçait, je crois que c'était lors du match à Bercy, du dos. Il tire un peu la langue par moment, on demande à sortir. Comment il est? Est-ce qu'il est à 100% pour le premier match de la finale?
Bon, moi j'étais ce matin à l'entraînement, il était impeccable. Il était impeccable.
Le dos va bien.
Ouais, le dos va bien, mais il a pris des coups. Et on prend plus de coups contre l'Asvel quand on est défendu par des joueurs de 1m95. Que par les grands de Monaco. Les grands de Monaco, on les a joués, Monaco. Ils n'ont jamais mis un mauvais coup. Ils ont, l'Asvel a utilisé ça, notamment à Bercy. Et là, quand on fait 2m20, on prend des coups au niveau des reins, et tout ça, ça fait mal. Bon, quant à la soi-disant faiblesse physique de Victor, moi, je ne l'ai pas vu, parce que dans le championnat, c'est sans doute celui qui a pris le plus de coups cette année. Et en plus, comme il est grand, il y a un levier différent, c'est, ça marque, ça marque. Non, je crois que, vous savez, en sport, on dit souvent qu'un joueur est un faux lent. Ben, lui, c'est un faux fragile. Il est pas du tout fragile. Il est élancé, il est longiligne, tout ce qu'on veut. Il manque de carrosserie, mais il n'est pas du tout fragile.
Et on le sent aussi en mission à la Leaders' Cup. Vous étiez arrivé décimé à Saint-Chamond pour jouer l'Asvel en quart de finale. Vincent Collet était prudent parce qu'il savait les forces en présence. Mais lui, non, je viens pour gagner. On sent qu'il a ça en lui et que là, ça anime aussi tout le monde, tout ce groupe. Ils sont en train de vivre quelque chose d'unique aussi pour tous les joueurs de cet effectif.
Bon, en plus de ça, je ne veux pas lui donner toutes les qualités, mais il faut reconnaître qu'avec le sage, là où Konaté, c'est le leader du vestiaire. C'est lui, hein, c'est lui. Ils ont des joies, des enthousiasmes de gamins. Voilà, alors gamin pour moi, c'est normal, mais ils ont 18 ans, donc ils sont un peu gamins pour tout le monde. Bon, ils ont des joies formidables. Et Victor est tête de liste, hein, dans ce compartiment.
Avec les finales, samedi 10 juin, le premier match à Monaco, 20h30. Le deuxième match, 20h30, donc le lundi, deux jours après. Et jeudi 15 juin, Alain Weiss, où aura lieu ce Boulogne-Levallois-Monaco? Parce qu'effectivement, il y a Marcel Cerdan, mais c'est peut-être un peu petit. Est-ce que vous avancez sur des pistes? On sait que Bercy n'est pas disponible, par exemple.
Bon, écoutez, dès qu'on est monté dans le train pour rentrer de Villeurbanne, on s'est occupé de ça. On a contacté Bercy, U-Arena et Roland-Garros. Bercy, impossible, il y a une grande messe d'une grande entreprise, c'est loué, c'est pas possible. La U-Arena, ils sont pas organisés pour mettre en place la U-Arena pour le basket en si peu de temps. Et on est à fond sur Roland-Garros. Donc Roland-Garros, les négociations, mais c'est même pas des négociations, c'est l'éventail des possibilités ont été évoquées. Et bon, le club est d'accord. Gilles Moreton est d'accord. Il reste maintenant je dirais la réponse de la responsable, c'est une dame, et qui doit donner sa réponse ce soir pour savoir si c'est faisable ou pas, parce qu'ils sont eux-mêmes en plein déménagement de Roland-Garros. Donc c'est pas facile pour eux non plus, mais ils ont vraiment envie de nous rendre service et puis d'accueillir la finale du championnat de France qui, bon, avec la présence de Victor Wembanyama, elle aura un retentissement international.
Il peut y avoir un Français qui gagne sur le central de Roland-Garros en plus.
Ça, c'est rare.
Pas mal. Fred, tu souscris Roland-Garros, il y a déjà eu un match cette année de saison régulière.
Paris-Monaco, justement, qui s'était imposé. Donc, ils connaissent un petit peu les lieux. Mais oui, ce serait magnifique. Bien sûr, le décorum est incroyable. En plus, ça rappellerait un petit peu la salle de Monaco. Les sièges sont un peu de la même couleur.
C'est vrai.
Mais non, franchement, décorum incroyable. On souhaite évidemment que ça se passe là-bas.
Et puis, on est à la limite, hein, de Boulogne-Billancourt aussi. Il n'y a qu'à traverser la rue, je crois, ou on est sur le territoire de Boulogne-Billancourt. Là, j'ai un peu.
Non. Ouais. Roland-Garros.
Roland, c'est Paris.
C'est Paris, mais vous faites.
En face, c'est Boulogne.
On traverse l'avenue.
Voilà, ou si vous avez un chien, peut-être vous promenez votre chien, il va faire pipi à Boulogne et il habite.
Et la commission à Paris.
Bien qu'il habite Paris. Et inversement.
Votre prono sur les finales, Geoffrey?
3-2 Monaco.
3-2, hein, en 5, en avec 5. L'épilogue.
On a envie que ça aille en 5 en tout cas.
Nicolas?
3-1, mais un 3-1 serré pour Monaco.
Fred?
J'aimerais dire un 3-2, hein, mais je vais dire un 3-1 pour Monaco.
Ben moi, je vais dire 3-1 Metz, parce que c'est comme le hit, on les sous-estime. Bon, Alain, est-ce qu'on donne un prono?
J'en ferai pas.
Ben, c'est normal.
Non, j'en ferai pas.
C'est normal. On va pas, voilà, il y a des superstitions ou pas, mais on souhaite évidemment de voir une belle finale et on a hâte. Vous pourrez les suivre d'ailleurs sur RMC, ces finales entre l'AS Monaco Basket et les Metropolitans 92. On passe à la partie suivante, l'avenir des Mets justement et l'avenir aussi de son actuel directeur des opérations sportives, notre invité Alain Weiss.
Le big man
entre Wembanyama et Fall. Il part très haut, il part dedans. Surtout ce shoot de Victor Wembanyama.
C'est beau d'avoir la reconnaissance des spécialistes, c'est encore plus beau d'avoir la reconnaissance du public. Bon, Alain peut nous le confirmer. Partout où Boulogne est passé cette année, ils ont fait guichet fermé. Ça le comble.
Qui va dégainer du logo. C'est parti pour Brown. Mais c'est une machine. Quelle adresse incroyable de Brown Junior.
Ils ont réussi encore quelques miracles, hein, et pas que avec Wemby. Hein, ils ont monté une belle équipe, alors qu'ils n'ont pas de. Ils ont une toute petite salle. Bon, et ils se débrouillent. Donc ça veut dire que l'intelligence paye.
Turn around. Wembanyama ultra clutch sur son move quasi signature, ce turnaround là.
Très fort ce shoot là.
Donc ça c'est extraordinaire, c'est une vraie reconnaissance et je suis curieux de savoir ce qui va se passer derrière.
Les Mets sont donc en finale de ces playoffs du championnat de France avec Victor Wembanyama, véritable tourbillon médiatique qui a entraîné le basket français dans une spirale positive incroyable cette saison. Mais est-ce que l'avenir des Mets est assuré pour la saison prochaine et les années à venir? Le club fonctionne sur deux villes, Boulogne-Billancourt et son maire Pierre-Christophe Baguet, féru de balle orange, et Levallois-Perret qui héberge encore l'équipe dans le palais des sports Marcel Cerdan avec un accord renouvelé jusqu'en 2028 pour l'utilisation de la salle. Alain, vous avez annoncé que vous étiez sur le départ pour une retraite bien méritée dans votre sud chéri. Le coach aussi, Vincent Collet, va partir car nous sommes en année pré-olympique et donc la casquette de sélectionneur est privilégiée après un accord avec la fédération. Alain, est-ce que vous pouvez rassurer les observateurs et les fans des Mets sur l'avenir de Boulogne-Levallois?
Bon, rassurer, moi je m'en tiens à ce que le maire dit et à ce que je sais. Bon, je sais que financièrement, on a peu de sponsors, mais ce sont des gros sponsors. Ils se sont engagés à continuer. Le maire, il n'y a pas plus de 5 jours, je crois, a fait voter la subvention au conseil municipal.
À la quasi-unanimité.
À la quasi-unanimité, donc sans aucun problème, alors que ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Ensuite, il y a une convention qui a été signée avec Levallois pour l'utilisation de la salle pendant 5 ans. Voilà. Maintenant, il y a des objets de, je dirais, pas de doute, mais de désordre. Pas de général manager, pas de coach et pas de joueur. Deux joueurs simplement, voilà ce que je dis, pas de joueur, deux joueurs simplement sous contrat, Konaté et Armel Traoré. Donc ça, c'est du désordre. C'est du désordre et je pense que même si la décision du maire Pierre-Christophe Baguet est prise de continuer, il y a un retard qui est considérable. Bon, ça fait, franchement, ça fait 40 ans que je recrute. J'ai jamais vu une équipe commencer à recruter le 15 juin. Et bon, c'est à l'heure actuelle, la plupart des équipes ont déjà une grande majorité de leurs joueurs français. Après, les étrangers, c'est pas pareil. C'est pas le même calendrier. Mais pour les joueurs français, voilà, donc moi, c'est ce que je lui dis. Je lui dis, mais il faut mettre tout ça en ordre de marche. Et il n'a pas le même timing. Voilà, il a un timing d'homme politique qui regarde, qui voit ce que ça peut apporter à sa ville, à lui-même, etc. Donc, et ça, c'est gênant. Voilà, c'est gênant pour tout le monde parce que tous les agents, tous les clubs, il suffit de regarder. Bon, quels sont les nouveaux joueurs de Boulogne-Levallois? Il n'y en a pas. Voilà. Quels sont ceux qui partent? Tous. Donc, à un moment donné, il faut quand même être sérieux et puis commencer à travailler. Alors, ça, c'est pour moi, c'est une contrariété parce que je connais tellement la façon dont ça fonctionne que pour moi, c'est une grosse contrariété. Pour le maire, bon, il dit non, on n'a pas de retard à l'allumage. Bon, je crois qu'il se trompe, mais en tous les cas, je suis pratiquement certain qu'il y aura une équipe de Boulogne-Levallois l'année prochaine, même s'il y a quelques signaux qui pourraient faire penser le contraire.
Pratiquement certain, il y a ce mot pratiquement qui oui. Est fort en nuance en fait, parce que malgré ce que tu dis sur les subventions, sur l'accord pour jouer à Levallois jusqu'en 2029, il y a un scénario qui peut arriver où il n'y ait plus d'équipe, s'il n'y a que deux joueurs, pas de coach, pas de manager et que le retard pris est trop important.
Je ne pense pas. Lorsque j'ai dit pratiquement, c'est parce que j'ai connu la même chose l'an dernier. Et d'ailleurs, je devais m'arrêter. Je ne me suis pas arrêté à cause de ça, parce que l'année passée, Le 27 juin, et le 27 juin c'est important parce que c'est là que Victor Wembanyama a donné sa réponse à l'ASVEL. Le 27 juin, nous n'avions plus de président, nous n'avions plus d'entraîneur, les deux avaient démissionné et le maire voulait tout arrêter puisqu'il a proposé le club d'abord à Paris Basket et ensuite à Nanterre où il avait donné pratiquement son accord. Donc, j'ai continué exprès pour ça parce que tout le club, honnêtement, je l'ai staffé. Je l'ai staffé avec des gens que je connais, avec des gens dont je connais le tempérament et la valeur. Donc, j'étais malade de ça. J'étais malade et donc je m'y suis remis. J'ai continué, mais je leur ai dit, c'est ma dernière année. Et je ne m'arrête pas parce que Victor va partir, Vincent va partir. Non, j'étais monté pour 2 ans, je suis resté 6 ans. Donc, on ne peut pas me taxer de quitter le navire. Maintenant, ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas appris de nos erreurs. Et j'ai l'impression, cette année, de revivre exactement le même scénario que l'an dernier. Alors, c'est différent parce que là, on a l'assurance que les sponsors, qui sont déjà les sponsors du club, comme IDEX, se sont engagés à continuer l'aventure. Donc, le club sera sans doute à la tête d'un budget de 5 ou 6 millions, mais 5 ou 6 millions, on peut faire un championnat.
Largement, il y a de quoi être au moins dans le top 8.
Moi, cette phrase, elle me fait un peu rire, je suis désolé Alain, mais quand tu dis on n'a pas appris nos erreurs, j'ai envie de dire vos erreurs ne sont pas trop mal, vous êtes en finale du championnat de France.
Oui.
Peut-être qu'ils se sont dit on va faire la même.
Sur la préparation.
Ça, on va faire la même chose sur.
Tu ne signeras pas un Victor Wembanyama tous les ans, c'est peut-être ça.
Je plaisante évidemment.
Fred, mais tu as raison. Non, mais c'est... je trouve que tu as raison. Mais comment on s'en est sorti l'an dernier? Parce que. Il y avait une osmose entre les agents de Victor et moi. Et cette osmose, c'est quoi? C'est 30 ans de travail en commun, de réseau. Aujourd'hui, moi, je conteste pas que celui qui va me remplacer puisse faire la même chose. Mais encore faut-il qu'il y ait un remplaçant.
Oui, je comprends.
Combien vont rapporter les drafts de Bilal Koulibaly et Victor Wembanyama? Parce que ça, c'est un apport qui peut être important dans un budget pour l'année prochaine.
Tout à fait. Victor, ça va rapporter 2 millions. Mais sur les 2 millions de dollars, il faut rétrocéder 1 million de dollars au club formateur. Et ils sont plusieurs. Nanterre, l'ASVEL. Et puis, ça a été... c'est tout un chantier, l'entreprise Victor. Hein. Il faut payer un ostéopathe, il faut payer. Des dépenses, il y a au moins 8 personnes qui s'occupent de lui. Donc, à plein temps. Ça, c'est... Et ensuite, Koulibaly, c'est négocié déjà à 800 000 dollars. Donc, c'est pas ridicule. Mm-hmm. Il resterait 1,8 million. Alors, comme 1,8 million non prévu et puis non budgété, je veux dire, dans les budgets précédents. Plus la subvention de Boulogne, plus les sponsors qui se sont engagés à rester, ça permet de...
Il y a un matelas, quoi.
Il y a un matelas. Alors après, je sais que le maire de Boulogne a l'espoir de voir des investisseurs étrangers venir, mais comme je connais assez bien le sport, j'en ai vu beaucoup faire le tour du stade Vélodrome, vous voyez, et puis partir. Donc le syndrome cache-car, je le connais. Ou l'argent dans les tuyaux.
Donc, j'ai connu des Chinois à l'époque, Chinois, à Limoges.
Donc on a tous des expériences de ce type. Donc les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Moi, je suis très dubitatif, même si le maire est très confiant par rapport à l'investissement de certains Américains.
Vous écoutez Basket Time. Alain Weiss, directeur des opérations sportives des Mets 92, est avec nous en studio avec Frédéric Weiss, Nicolas Bayot et Geoffrey Charpie qui a une question.
Oui, j'ai une question pour vous Alain. On a beaucoup parlé cette année de Victor Wembanyama et depuis 3 mois et plus particulièrement sur ses playoffs, il y a un jeune joueur qui explose au sein des Mets, c'est Bilal Koulibaly. Est-ce que vous, en tant que dirigeant, vous aviez vu son immense potentiel dès le début? Qu'est-ce qui a fait qu'il a pu exploser comme ça? Est-ce que c'est les blessures de certains joueurs? Est-ce qu'il a plus travaillé que les autres? Est-ce que Vincent Collet, qui fête aujourd'hui ses 60 ans d'ailleurs, on lui souhaite un joyeux anniversaire. Est-ce qu'il travaille plus avec lui? Voilà, je voulais savoir un petit peu votre avis sur Bilal Koulibaly parce que voilà, Nico, Fred, Arnaud, on regarde tous les matchs et vraiment c'est un gamin qui a 18 ans, qui va être drafté, on parle de top 15 pour cette année, mais qui nous a littéralement bluffé.
Alors, je vais vous faire une confidence, il y a 3 ans, au retour d'un tournoi, je ne sais plus où, en région parisienne, l'entraîneur Philippe Sudre m'avait dit Koulibaly, c'est Sanko.
Parce que, ah oui,
parce que on a connu l'aventure Sonko ensemble. Et je lui dis, oh, arrête.
Bon, voilà, tu l'as déjà fait, ça.
Ouais. Donc, il m'a dit, Koulibaly, c'est Sonko. Et bon, alors, il était bon en U18, il a été bon en espoir cette année. Mais cette année, en début d'année, Vincent ne l'avait pas mis sur le terrain. Hein. Donc, Vincent redoutait qu'il soit trop fragile. Et il pensait que dans le match-up, il était trop fragile pour jouer 3. Et, bon. Et puis, il y a eu des blessés. Et lorsqu'il y a eu des blessés, il a fait son premier match contre Paris Basket, match aller. C'était en gros le 10 décembre. Et à partir de là, il a plus quitté le terrain. Donc, en fait, ça fait partie de ces joueurs, encore une fois, qui sont des faux fragiles, parce qu'il a tellement de peps dans les jambes que, bon, ben, OK, il n'a pas la carrosserie, lui non plus, mais il a tellement de vivacité, de qualité athlétique qu'il peut compenser. Et puis après, il a été inégal, hein, il faut le reconnaître. Il n'a pas toujours fait le match 4 qu'il a fait contre l'Asvel. Mais il a toujours été bon, ne serait-ce qu'en défense, il a toujours été bon. Alors son problème, c'est le tir extérieur. Il n'est pas maladroit, mais le tir n'est pas bon. Donc ça, il faut qu'il améliore. Il l'améliorera en NBA. Et ce n'est pas encore un shooter pur. Voilà. Donc je ne sais pas s'il le sera. Il est adroit. Il est adroit, mais aujourd'hui, il fait son beurre avec le drive. Le drive et le jump à la fin qui sont deux choses fabuleuses dans son jeu.
À qui te fait penser, Fred, Bilal Koulibaly? Si je vais le comparer un peu à ce qu'on trouve en NBA ou même Alain, hein, on a parlé de Moussa Sonko, est-ce que vous maintenez la comparaison ou un autre joueur qu'on peut voir en NBA ou des internationaux français?
Moi, j'aime pas les comparaisons parce que
il a un profil vraiment.
Il a un profil intéressant parce qu'il est très physique, parce que défensivement, il est toujours en place, parce qu'il a des très grands bras, parce qu'il est hyper tonique. Et c'est ça qui lui a donné sa chance, en fait, parce que Vincent l'a mis sur le terrain, il lui a dit vas-y, montre-moi ce que t'as. Et il n'a pas fait d'erreur. Il n'a pas fait d'erreur et il a défendu dur sur n'importe qui. Donc à partir de là, ça a été des bases solides pour qu'il continue à progresser. Et il a progressé. Mais c'est vrai que sur le shoot, il n'est pas encore. Enfin, il n'a pas un shoot exceptionnel. Et d'ailleurs, sans trahir de secret, on en avait parlé avec Vincent à la fin d'un match. Il m'a dit, moi, dans l'absolu, je préférais qu'il reste une année de plus pour pouvoir travailler avec lui, etc. Il me dit que ça va peut-être un peu vite. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Alain.
Oui, mais le problème, c'est qu'il faut se mettre dans la logique de la NBA.
Bien sûr, bien sûr.
C'est-à-dire que...
Le train passe pas parfois plusieurs fois.
Alors, ça, c'est une chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que la NBA, aujourd'hui, draft des prospects, des espoirs. Donc, eux, ce qui leur plaît en NBA... Parce que je les ai tous reçus, hein, les scouts NBA ou les GM ou tout ça.
Vous avez fait toutes les franchises.
Tous, la veille des matchs et tout ça, ils sont toujours là, on discute, ils veulent savoir.
Est-ce que tu invites à manger quand même?
Non.
Jamais?
Non, les Américains.
Ouais, ça vaut pas le coup.
les Américains, un café au lait, mais c'est tout. Non. Et donc, ce qui les arrêtait, c'était qu'il tentait pas cette chose par rapport à son potentiel. Ça, il le lui reprochait. Et puis, ce qui leur plaisait, c'était les capacités athlétiques. Parce que les Américains, bon, il y a les stars, OK, pas de problème. Mais tous les autres, ils doivent être susceptibles de faire des actions qui vont faire le tour du monde. Et il en fait partie. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'il est prêt pour la NBA? Je ne sais pas. Il le sera à un moment donné, parce que c'est un garçon, lui aussi, très intelligent, qui écoute beaucoup, qui est, comme disait Popovic aujourd'hui, c'est une éponge. C'est une éponge, il écoute tout, il enregistre, il a pas de certitude, si ce n'est que sa certitude, c'est qu'il veut devenir un vrai bon joueur NBA. Bon, il va être drafté, hein, tout le monde le dit. Hein, moi, je n'en sais pas plus que les autres, mais à ce qu'on dit, pour être dans les 15, il va être drafté premier tour de toute façon. Et puis, je crois que... Bon, il va rester aux États-Unis. Hein. Je ne pense pas qu'il vienne se...
Drafté aussi haut, il ne reviendra pas.
Ça, il ne reviendra pas.
C'est quasiment une certitude. Mais c'est vrai que je comprends l'approche de Vincent qui se dit, s'il avait pu faire une année de plus, travailler avec lui, ça aurait peut-être été plus de bagages pour lui pour partir.
Non, voilà. Mais c'est évident, mais ce n'est plus la logique de la NBA.
C'est clair.
Puis de pourquoi pas l'avoir en fenêtre FIBA, Vincent, hein. Je sais que l'équipe de France, ça peut être, on s'attend à peut-être voir Koulibaly international un jour, hein. Vu le potentiel.
Ah mais oui, mais il ne pourra pas faire partie des fenêtres, parce qu'il sera en NBA.
Là, s'il en NBA, voilà, c'est pour ça que peut-être que le sélectionneur appelle de ses voeux à ce qu'il reste en Europe et pas en Euroleague, parce que sinon, là aussi, il n'y a pas de fenêtre. Alain, vous allez tirer votre révérence après plus de 40 ans au service du basket. D'ailleurs, peut-être finir sur cette note et cette finale, c'est plus qu'un beau clin d'œil, mais j'avais envie de vous demander à la fois votre ce qui vous marque encore en souvenir positif. Il y a peut-être cette médaille olympique et peut-être aussi un crève-cœur, les JO d'Athènes et cette non-participation peut-être avec ce match de l'Italie, cette troisième place.
Bon, franchement, moi, j'ai eu beaucoup de joie et beaucoup de chance. Moi, je suis un Marseillais, un enfant d'Andoum. Il n'y avait que du foot à la sortie de l'immeuble où on habitait. Donc, je jouais au foot tout le temps. Mais mon père avait créé le club d'Andoum de basket. Et donc, je faisais basket et foot en permanence. Et mon père avait mis une seule obligation, sport à fond, à condition de faire des études. Voilà. Bon, honnêtement, j'ai toujours été bon élève. J'ai jamais redoublé. J'ai fait les études que je voulais. Et puis après, le basket est devenu une passion. J'ai été joueur.
En N2,
à l'époque où la N2 était la troisième division, je crois. C'est l'équivalent de National 1 d'aujourd'hui. Voilà. J'ai jamais cherché à aller plus haut parce que je voulais vraiment faire des études. Donc, j'aurais pu faire l'équivalent d'aujourd'hui d'un centre de formation, être un petit professionnel. J'ai préféré être un grand professeur. Non, je plaisante. J'ai choisi d'être prof de PS. Et puis après, quand on est prof de PS, ça ouvre beaucoup de choses. Voilà. Bon, et puis, alors après, il y a des joies. Les joies des entraîneurs, franchement, elles sont moins grandes que les joies des joueurs. C'est incomparable d'être joueur. Voilà. Mais il y a eu des grandes joies. Bon, d'abord, j'ai connu les sports-études. On a été champion de France 9 fois. Mon début de carrière avec Château et Sceaux. On a été aussi champion de France des divisions où on jouait. Et puis après, il y a cette aventure extraordinaire avec Fred à Sydney, où on fait une médaille d'argent contre toute attente. Il faut contre toute attente, mais avec une très grosse équipe. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas été bon la première semaine. On avait perdu contre la Lituanie, contre l'Italie. On avait gagné à la douleur contre la Chine grâce à
un grand Rigaudeau.
Et donc, on arrivait par la petite porte en deuxième semaine, en quart de finale. Et puis, les Yougoslaves, à l'époque, on les appelle les Yougoslavies, je crois. Hein.
Oui, encore.
Ils ont eu la bonne idée, dans le dernier match contre le Canada, de se battre dans les vestiaires. Ils avaient 12 points d'avance. En deuxième mi-temps, ils ne se sont plus fait une passe. Et Steve Nash les a battus à lui tout seul. Et au lieu de jouer la Yougoslavie qui nous avait battus de 30 points à Wollongong avant de rentrer au village olympique, on joue le Canada. Et le Canada, on a été très fort. Ciara, bon, Fred a fait une deuxième semaine exceptionnelle. Diomassi, ainsi de suite. Et puis l'équipe est devenue, à ce moment-là, une grande équipe. Qu'elle n'était pas en la première semaine. Voilà. Ça, c'est un souvenir inouï, inoubliable. Je vous dis encore une fois, moi j'étais dans les rues d'Andoum, j'ai joué au football, je me retrouve aux Jeux Olympiques, bon, c'est Tintin au JO, quoi. Et puis, une sorte de drame pour moi, c'est le dernier match contre l'Italie en 2003.
À l'Euro.
L'Italie, aujourd'hui, vous le savez, il y a 25 ans, hein, j'ai encore des frissons quand j'en parle, on les bat de 34 points en poule. Ils sont épuisés lorsqu'on les retrouve pour la troisième place.
Et qualificatif pour les JO d'Athènes.
Qualificatif pour les JO d'Athènes. Entre parenthèses, juste renforcé par Pozzecco, ils font quand même médaille d'argent à Athènes. Et puis les joueurs qui supportaient pas d'être... Comme pour Victor Wembanyama et Waters. Ils supportaient pas qu'il y ait la lumière sur Tony Parker. Excusez-moi de l'expression, mais ils nous font la carrée, quoi. Voilà. Et donc, ils ne jouent pas contre l'Italie. En demi-finale, contre la Lituanie, on était passé à une possession de battre la Lituanie. On est à moins 1. Et Tony Parker, 17 secondes à jouer. La possession, le temps mort. La balle à Tony Parker. Et puis, il ne met pas le panier. Et à partir de là, ça a été... Ça s'est dégradé et ça a explosé. J'ai même demandé l'aide du président Menini à cette époque. Je lui ai dit, Ivan, il faut que tu viennes parce que c'est une catastrophe qui se présente, parce que je le sentais. Bon. Quand est arrivé le match le lendemain après-midi, j'ai dit à Vincent Collet, qui était mon assistant, j'ai dit, Vincent, il y a des joueurs qui ne vont pas jouer. Il m'a dit, tu crois ? Il y a des joueurs qui ne vont pas jouer. Il faut les identifier tout de suite. Et puis on a vu qu'il y avait des joueurs qui ne jouaient pas. Voilà. Et donc, on est quand même revenu dans le match parce qu'ils étaient vraiment épuisés, les Italiens. Blessés, épuisés. Et nous, on avait simplement des joueurs qui ne jouaient pas. On est revenu. Et bon, la dernière balle, c'est aussi Tony qui l'a et qui la négocie mal. Et on va pas atteindre. Ça, c'est quelque chose qui, je vous dis, 25 ans plus tard, je l'ai toujours en tête, quoi.
Et on s'en souvient, évidemment, tous aussi. Alors, on était plus jeunes avec Geoffrey, sans vous faire d'offense, messieurs Fred et
Nicolas. Et on sent l'émotion palpable d'Alain.
Et il a fallu attendre 2012 avant de revenir aux Jeux Olympiques pour l'équipe de France. Messieurs, on passe à la partie historique et vous allez nous parler de vos plus belles performances en finale du championnat de France de basket.
Boris Diaw face à Jim Bilbao. Oh là là, que c'est joli. Sublime.
Pour le moment, j'espère qu'il y en aura d'autres. C'est l'action du match, peut-être même l'action de cette série finale.
Oh, quelle est belle cette passe tendue de Laurent Poirès. On se serait cru au handball avec un coup de vous.
C'est bien fait de la part de Jérôme Valène. Accordé.
Notamment récupéré par Mustapha Sonko.
Superbe.
Pour Rod à 3 points.
Encore quelle action.
La top team up.
Point de retard pour l'équipe de Villeurbanne. Rigaudeau, superbe, avec une faute à la clé, donc un lancer franc derrière.
Les plus belles actions que vous avez entendues dans cette magnifique prod préparée par Arthur Robert et Geoffrey Charpille. Fred, grand suspense, tu as choisi une équipe dans laquelle tu étais.
Exactement.
Ah, oh, c'est surprenant.
On n'est jamais aussi bien servi que par toi-même.
Hein.
Donc j'ai choisi le CSP 2000. Parce que bah déjà la situation en 2000 au CSP est très compliquée. On ne sait pas si vous en rappelez parce que vous étiez trop jeune, semble-t-il. Et je parle aux gens qui
on
ont
a lu ton livre, donc on sait.
Et il y en a un qui l'a écrit d'ailleurs. Donc on est dans une situation très compliquée. Il y a plus d'argent. Les joueurs renoncent à une grande partie de leur salaire pour pouvoir continuer. Et c'est vrai que les choses s'enchaînent bien en termes de sportifs. Première coupe Corach gagnée contre Malaga, Coupe de France contre le PSG à l'époque. Basket avec Cyril Julien par exemple et Tony Parker dans les rangs, oui, qui ne joue pas beaucoup d'ailleurs à cette époque-là encore. Et finale contre l'ASVEL en championnat de France. ASVEL qui fait une saison assez incroyable cette saison-là. Dans cette équipe de l'ASVEL, j'ai cité le 5 majeur, il y a Jim Bilbao, Moussonko justement, on en parlait tout à l'heure, Shee Seals, Marlon Maxey et Jay Lamanaga, si vous vous rappelez de ce joueur qui est maintenant assistant en NBA. Et donc, du côté de Limoges, j'ai une belle équipe aussi. Hein. Bonato, Dumas, Harper Williams, et Marcus Brown. On en a discuté tout à l'heure, je ne me rappelais plus qui était cinquième joueur, c'était quand même moi. Mais comme quoi, ma mémoire est de plus en plus défaillante. Vous avez raison de signaler que je ne suis pas jeune. Et en fait, tout se passe bien pour nous. On gagne le premier match à l'ASVEL et on se dit, bon, c'est quasiment fait. Maintenant, on n'a plus qu'à rentrer à la maison. Ça se jouait au meilleur des trois matchs. On n'a plus qu'à rentrer à la maison et finir le match et finir la finale surtout. Et on retourne à Limoges. Évidemment, on perd. Et on se retrouve à l'ASVEL. Et là, c'est fini. Personne ne donne cher de notre peau. On se retrouve à l'ASVEL et on va pour faire le shooting du matin. Et là, petite répétition de montée du fanion de l'ASVEL. Ce qui était exactement ce qu'il ne fallait pas faire contre nous, parce qu'on n'était pas très cher payé. Mais par contre, on avait un petit peu de cœur et on avait un petit peu d'ego. Et de l'amour propre, évidemment. Donc, Yann Bonato, qui a été un leader incroyable en cette saison, nous prend tous et dit « Vous voulez vraiment vivre ça ce soir ?» Donc ça nous a bien chauffé. Finalement, on se retrouve à battre cette équipe à Villeurbanne, ce qui était assez fantastique à l'époque, ce qui nous permettait surtout de faire un triplé. Et juste pour la blague, donc déjà la saison a été incroyable parce que tout le monde avait fait des efforts financiers pour continuer. On gagne les trois titres, on gagne le championnat de France qui était contre une équipe magnifique coachée par Greg Benoît, en plus vraiment très très bon coach. Et donc à la fin, on est tous dans le vestiaire, on se congratule, on se dit voilà, la saison est finie. Et donc Dusko Ivanović vient nous voir, il dit félicitations, je suis très fier de vous. Et là, il se ressaisit en deux temps, trois moments, et nous regarde, il dit bon, on se revoit dans une semaine pour la post-saison, alors qu'on n'avait pas été payé pendant toute l'année. Et là, on a tous regardé, il est sérieux. Et là, on a eu la chance, on a eu les Jeux Olympiques pour Yann Bonato, Stéphane Dumas qui était convoqué aussi, et moi. Donc on s'est dit, oh, on s'en fout, nous on échappe au moins à ça, et on est allé faire la préparation avec Alain, entre autres, pour les Jeux Olympiques. Voilà.
Merci le staff de l'équipe de France.
Et hein. Ils nous ont un peu sauvés parce qu'on s'est dit la post-saison avec Dusko Ivanović dans les montagnes, on préfère jouer des finales.
Juste pour ajouter une chose, moi je l'ai bien vécu votre épopée parce que tout le monde parlait des difficultés financières de Limoges, tout ça. Je me demandais comment ils arrivaient à jouer, voilà, sans être payés. Sans... Bon. Ils ont fait. Vous avez pris les trois titres.
Oui.
Les trois titres. C'était extraordinaire. Un grand coach aussi.
Ah, bien sûr.
Ivanovic.
Dusko Ivanovic.
Et chez nous aussi en ce moment, bon, c'est mon ami, alors c'est difficile d'en parler, mais un grand coach aussi. Vincent est un grand coach, au-delà des médailles obtenues en équipe de France et tout ça. Mais bon, il a quand même été champion avec Le Mans, champion avec Villeurbanne.
Je lui souhaite un bon anniversaire d'ailleurs.
Alors c'est aujourd'hui. Je lui ai souhaité hier parce que je croyais qu'on était le 6. Je ne sais plus où j'en suis des dates avec les playoffs et tout ça. Mais c'est aujourd'hui, c'est le jour du débarquement.
60 ans.
Le jour du débarquement. Alors on sait pas, c'est pas la même année, mais c'est le 6 juin. Et donc, franchement, moi je le vois travailler tous les jours et c'est perfectionniste, mais vraiment forcené. Quelquefois, je lui dis, tu vas trop loin. C'est pas des coachs, c'est des joueurs. Il me dit, non, mais il faut que tout soit dit. Il faut que... Et si c'est dit, même s'ils ne comprennent pas sur le moment, ils comprendront après, tout ça. Bon. Franchement, aujourd'hui, c'est un master coach. Voilà. Comme l'était Ivanovic avec vous. Quoi.
Oui, c'est clair.
Geoffrey, on remonte dans le temps. Les plus belles performances en finale du championnat de France.
Ouais, moi je vais vous amener en 2011, parce qu'en 2011, c'est presque un classique du championnat de France qui se déroule à Bercy. Cholet, tenant du titre, affronte le Sluc Nancy qui a été finaliste 5 fois au cours des 7 dernières années. Problème, les Cougars à l'époque n'ont remporté qu'un seul titre, c'était en 2008. Cette finale oppose donc les deux premiers du championnat. Tout est réuni sur le papier pour une finale exceptionnelle. D'un côté, le meilleur joueur de la saison de ce qu'on appelait encore la proie, un certain Sami Mehria à Cholet. Et on peut également rajouter Fabien Causeur ou encore Randall Falker pour Nancy, John Linehan, Akin Akingbala qui avait joué la demi-finale. Et c'est Stephen Brun, en préparant cette émission, qui m'a rappelé qu'il avait joué la demi-finale face à avec le nez cassé et encore l'élégant et athlétique Trémel d'Ardenne, 6000 supporters de Cholet face aux 2500 nancéens et un enjeu primordial à l'époque, une qualification directe au tour final de l'Euroleague. La finale tient toutes ses promesses, 40 minutes d'une intensité rare et malgré une certaine maladresse du côté de Cholet tout au long du match, Fabien Causeur égalise à 74 partout à quelques secondes de la fin avec un tir à 3 points rentré avec l'aide de la planche à 0 degré, c'était assez fort. Et c'est à ce moment-là qu'un certain petit bonhomme d'1m78 sort une nouvelle fois de sa boîte.
Nancy peut être champion de France si Nancy marque, ne serait-ce qu'à lancer. Willy Dean, sinon c'est prolongation. Linehan, il marque.
Il reste 3 secondes, temps mort
demandé. Linehan qui a marqué à 3 secondes de la fin.
Alors vous l'avez entendu, il reste 3 secondes après ce lay-up de John Linehan. Sami Mehria ne va pas réussir à envoyer Cholet en prolongation, voire même à faire gagner le club des Mauges. 15 points au final pour le virus. Il a été élu meilleur défenseur de proie, il est élu meilleur joueur de la finale. Et à l'issue de cette rencontre, ce n'est pas l'arbitrage qui est fustigé par le coach, de Nancy, mais c'est bien les play-offs à la française. Je le cite, le championnat, on commence à le préparer le 16 août et puis au final, toute la saison se joue sur un match. Ce n'est pas possible. Entre notre demi-finale et la finale, il s'est passé 11 jours. On manquait de jambes. Je ne peux pas tenir les joueurs en rythme durant une période aussi longue. J'ai essayé de trouver un match amical à jouer en France ou à l'étranger. Mais à cette époque de l'année, c'est impossible. Je ne sais pas dans quel autre championnat ça existe, ça. 2 ans après, la LNB va donc modifier son règlement et les finales du championnat de France se joueront donc au meilleur des 5 manches.
Et on a évidemment une pensée pour le regretter Christian Fra, le président historique du Sluc qui nous a quittés et qui était évidemment sur le banc un énorme passionné de basket. Vous êtes d'ailleurs le dernier coach qu'il a recruté, je crois, avant qu'il parte. Hein.
Oui, 2 ans après, moi je suis arrivé. Bon, l'année d'après, ce titre, l'équipe a fait un mauvais classement. Jean-Louis Bonchot n'a pas été reconduit, je crois. Et je suis arrivé à ce moment-là. Et dans l'équipe que j'ai constituée, Randall Falker nous avait rejoint. Ouais. Et donc, à un moment donné, John Linehan est venu faire une pige avec nous. Et à tous les entraînements, John Linehan disait à Falker, tu vois, regarde ce que je vais te faire, je vais te faire la même chose qu'à Bercy.
Sympa l'anecdote. Et 2013, justement, c'est le retour à ces formats de finale au meilleur des 5 matchs, Nicolas.
Oui, alors moi j'aurais pu choisir Nanterre 2013, j'ai hésité.
T'as pas pris ?
Non, j'ai pas pris parce que j'ai envie de le laisser à Stephen pour une autre émission. Je trouve que c'est mieux dans sa voix. Donc j'ai pris 2007, Rouen, l'histoire du petit poussé. La chorale de Rouen, c'était encore l'époque des matchs à Bercy. On aime ou on n'aime pas, mais c'était sur une seule finale sèche. Et 2007, Rouen, c'est l'un des plus petits budgets du championnat. Jean-Denis Choulet, 15e budget du championnat. Il n'y a prépa catastrophique à l'époque, ils perdent tous leurs matchs. Mais il y a quand même un trio US qui est peut-être du jamais vu à ce niveau-là en Pro A, Mark Sellers, Dispenser, Aaron Harper, et puis commence à gagner, les victoires s'enchaînent, on commence à les appeler les Suns de la Pro A pour leur jeu très offensif. Ils terminent deuxième de la saison régulière derrière Nancy, Dispenser et MVP. Et les trois Américains sont les trois meilleurs scoreurs de Pro A avant de commencer les playoffs. Ils tombent contre Cholet en quart de finale, ils passent l'équipe des Mauges. Ensuite, demi-finale contre Chalon, ils se qualifient pour retrouver donc Nancy premier de la saison régulière. Et la finale part très très mal, ils sont menés quasiment de 20 points en première mi-temps. Et il y a cette dernière minute de la première mi-temps qui est un petit miracle, qui les remet dans le match avec un écart simplement de 9 points. Et puis là, la deuxième mi-temps, c'est l'euphorie, il y a des shoots de folie, de Mark Sellers, de Laurent Cazalon qui était un spécialiste des gros shoots, Marc-Antoine Pellin qui signe des caviars, et Juan remporte le titre 48 ans après son premier sac. C'est un vieux club du championnat de France, et cette année-là c'est le fameux doublé quand même, Trophée des As et championnat de France, ça a apporté un petit peu de fraîcheur à cette époque-là dans ce championnat de France pour ceux qu'on surnommait, qu'on moquait un petit peu comme les paysans souvent.
On dirait que ça sort de la voix de Jean-Denis Choulet, ça. Hein.
Ouais, c'est un petit peu ce qui mettait en avant pour piquer ces joueurs. Il y a eu le décès aussi tragique du capitaine Pape Badiane quelques années. C'était le plus grand pour moi exploit du basket français jusqu'en 2013 et cette épopée formidable de Nanterre.
Rapidement, Alain, vous avez une autre finale qui vous vient en tête ?
Vous savez, moi j'ai une sensibilité coach. Et pour moi, il y a une performance de coach formidable. C'est celle, je crois que c'est la finale 2005, Strasbourg. J'étais à Strasbourg l'année d'avant et Eric Girard est arrivé. Et bon, ils ont gagné. Bon. Mais c'est pas ça. Bon, cette année-là, moi justement, je n'entraînais pas, donc j'ai beaucoup regardé les matchs. Et Eric Girard a fait, dans cette saison-là, un coaching extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a changé de défense à des moments que les adversaires ne soupçonnaient pas. Il a, en permanence, posé des problèmes aux adversaires qui n'ont jamais trouvé les solutions. Toute l'année, toute la saison. Alors, vous savez, bon, on n'est pas champion si les joueurs ne sont pas bons. Hein. Ça, c'est une certitude. Mais dans ces années-là où il n'y avait plus de hiérarchie, le coach avait une part prépondérante dans les résultats, et je tiens à rendre hommage à Eric Girard, qui est un ami, mais qui pour moi est un très grand coach, et qui l'a montré avant, et qui le montre chaque année avec le Portel, avec qui il fait des miracles.
Et une grande force de la nature par rapport à ses soucis de santé importants, et il continue d'être là et le voir communiquer avec ses joueurs, et cette force aussi un peu de la nature pour Eric Girard. Allez, on est en retard, mais c'est pas grave, on fait quand même le quiz.
Et alors là, je suis très content de ma trouvaille.
Tournerai en rond, et là, on va pas tourner en rond. Est-ce que vous êtes prêts ?
Coco Coucoch,
absolument. Alors là, vous mobilisez vos neurones.
Non, faites pas les paysans, t'es un mec de début de Chaumont, toi.
Je pense que de filles contre les vampires.
Et voilà, exactement. T'es pas un esthète du visage, mais qu'est-ce que c'est ton problème hein,
un esthète du visage.
Je vous la refais. Mon premier, oui. L'esthéticienne débronzée.
On a... C'est Christian, l'esthéticienne, c'est Christian Wood.
Bienvenue à Galaxinga. Ah, sacré jingle, on fait de mieux en mieux chaque semaine dans Basket
de pire
Time.
En pire, je ferai surtout.
Allez, le quiz, je vais vous proposer un extrait sonore d'une finale. Vous devez m'identifier de quelle finale il s'agit. On écoute ambiance. Bon, tout le monde. Même Alain.
Rohan.
Le Mans.
C'est Rohan.
C'est Rohan, voilà.
Bah, Dispenser.
Tu dis un premier. Tu dis juste après.
Oh, il y a presque simultané. Hein.
Est-ce qu'il parle plus fort en écrit, mais j'ai dit roi.
Oui.
Ah bah, roi.
Allez, on me dit Nicolas Bayou.
Tu t'es trompé en fait.
On me dit Nicolas Bayou.
Le juge.
Alain, vous jouez.
J'essaye, mais je suis largué.
Donc,
là.
Un point pour Nicolas. Est-ce que vous pouvez, chacun votre tour, me citer les 8 clubs français les plus titrés de l'histoire ? Et on commence par notre invité Alain. Donc, chacun votre tour. Vous devez me citer les 8 clubs français les plus titrés de l'histoire. Je vais vous donner un indice pourquoi j'ai pris les 8. C'est les seuls à plus de 3 titres. Parce qu'à 2, on descend quand même bien en dessous. Alain.
L'Asvel.
21, l'Asvel, évidemment. Première équipe, Geoffrey.
Portez,
9 titres. Troisième équipe.
J'hésite. Limoges, peut-être ?
Limoges, le CSP. Effectivement, 11 titres. Le dernier en 2015. Nicolas.
Le Mans.
Le Mans, c'est bon, 5 titres, le dernier en 2018. Alain.
Le PUC.
Alors, le PUC, est-ce qu'on le met... Parce que moi, j'ai sous Paris.
Non, non, c'est le PUC.
Mais non, le PUC, c'est pas bon.
Et je crois que c'est bon.
J'ai vérifié tout à l'heure.
Moi, je suis sûr que c'est bon.
Au-dessus de... Donc, plus de 3 titres ?
Oui.
On va quand même faire confiance à une Bible comme Alain Weiss, mais après, il y a les filles. Là, j'ai les filles. Bon, on laisse le bénéfice du doute.
Ouais, non,
honnêtement, je pense qu'il a raison.
Après, à cette époque-là, il y avait des noms qui changeaient souvent parmi les équipes parisiennes.
Donc, on peut l'accorder.
On est bon
Geoffrey.
Je crois que Nico a dit Le Mans il n'y a pas longtemps. Je vais tenter Strasbourg.
Strasbourg, c'est pas bon.
Ah, c'est pas bon.
Je crois qu'on est à... Un, déjà Eric Girard 2005, et le deuxième, pas sûr. Non, je crois que c'est que un.
Bah tant pis.
Fred.
Moi, je chanterai Cholet.
Cholet Basket, c'est pas bon. On est à deux. Nicolas.
Je vais tenter une équipe parisienne, le Racing.
Le Racing, c'est bon. Paris Basket Racing ou PSG Racing avec 4 titres, le dernier 97. 17. Alain.
Sainte-Marie de la Guillotière.
Est-ce qu'il est sûr là ? Non, moi je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, Sainte-Marie.
Ils ont raté leur finale.
Nicolas, pour terminer, il en reste 1, 2, 3.
On n'a pas été bon.
Non, mais on a été mauvais. Même.
L'Alsace de Bagnolet ?
Oui ! Dans les années 60, avec 3 titres, il restait Antibes, 3 titres.
Et il y avait Mulhouse ?
Foyer alsacien Mulhouse.
Eh oui, Mulhouse.
Dans les années 20. Et j'avais pas le PUC. Alors pourtant, j'ai regardé le palmarès officiel de la LNB. Hein, le...
Alors, on va vérifier.
Mais on va vérifier.
Mais ayant joué au PUC, mais pas dans ces années-là, il s'enorgueillissait d'avoir été plusieurs fois champion de France.
Ça aurait été dans quelle année ? Parce que j'ai le palmarès sous les yeux. 47 le PUC et 63 le PUC. Et c'est tout. C'est 47 et 63 le PUC.
Que deux titres ?
Et ils battent Bagnolet justement en 1963.
Allez, avec mes excuses.
Allez, c'est pas grave. De toute façon, on fait un peu d'histoire du basket. 2012, on parlait d'une équipe qui avait réussi un doublé. Là, c'est une équipe qui a réalisé un triplé. L'Élan Chalon, semaine des As, Coupe de France championnat. L'équipe emmenée par Grégoire Beugnot. Chacun à votre tour. Est-ce que vous pouvez me citer les joueurs de cette équipe ? On commence par Geoffrey.
Blake Shilb,
c'est bon. Fred. Ouh, il fait une tête, Fred. Allez, on va aller vite, on est en retard. Est-ce que tu as un nom ?
L'Auvergne.
Geoffrey L'Auvergne, c'est bon.
Stichy Kambou.
Stichy Kambou, c'est bon. Alain.
Comment il s'appelle ? Lang.
Nicolas Lang, c'est bon.
Eftimov.
Ilian Eftimov, c'est bon. J'aurais dû demander lequel.
Ouais, hein. C'est pour ça que je t'ai pas
Fred.
Il
n'y
avait pas le Suisse qui joue en Capella ?
Non, c'est pas bon, Clint Capella.
C'est Fanchat.
Non plus. C'était avant.
C'était pas sûr.
Il n'y a pas de Suisse en fait.
Alain.
Comment il s'appelait ? Desmond ? Non ? Il n'y a pas un qui s'appelait Desmond.
C'est presque. C'est... Non, non, c'est... on est loin.
Smith.
White.
Et Geoffrey, pour terminer, la victoire peut-être, c'est 2 points.
Le coach, ça compte ?
Non, je l'ai dit.
Ah. Je sais pas, je vais tenter un Johnny Linehan parce que dans mes mémoires, il
passait
à Chalon.
Non, c'est pas bon. Non. Allez, pas de points. Il y avait Malcolm Delaney qui était aussi un autre scoreur avec Blake Chibb. Alade Aminou, Jbam, Brian Smith, Jordan Aboudou, Ulysse Ajagba et Laquan Prowell qui est arrivé en pigiste médical. Allez, la dernière question. Est-ce que vous voulez jouer tout sur ça ? Bon, Nicolas mène de 2 points. Est-ce que...
Oui, il veut jouer tout
ça. Ça va être à la rapidité.
Tapis.
Allez, vas-y, je suis joueur.
Quel joueur détient le record de points sur un match en finale ?
Stalens.
Non. Sur une finale.
Ah, sur une finale.
Sur une finale. Yann Bonato ?
Non.
Un Américain ?
Don Collins.
Don Collins, c'est bon. Limoges 88 avec 40 points. Et victoire de Fred Weiss au buzzer.
Bravo,
on va te
Frédéric.
L'accorder. Merci beaucoup Alain.
Merci.
De nous avoir accordé plusieurs minutes. C'était un réel plaisir. On vous souhaite une bonne finale et puis une bonne retraite dans votre sud.
Merci beaucoup.
Aussi, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Basket Time.
RMC Basket Time.